Blues.com. Une présentation de la Caisse Desjardins Beauport en collaboration avec la Ville de Québec, Slimane et CKRL.
Offrez-vous un T-shirt officiel de CKRL à 12$ au lieu de 20. Pendant 5 semaines et jusqu'à épuisement des stocks, nos 5 variétés de T-shirts seront offertes en alternance pour seulement 12$. Du 25 au 29 juillet, le jaune. Passez-nous voir sur semaine de 9h à 17h au 405 3e Avenue.
1970, 8 étudiants de l'Université Laval préparent un dossier en vue de l'obtention d'un permis du CRTC dans le but de créer une station de radio. Le permis est accordé. 15 février 1973, CKRL 89.1 émet pour la première fois à 17h. Point de départ de ce qui deviendra une aventure d'une richesse inégalée. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Ici Tania Beaumont, directrice de la programmation de CKRL. Si vous avez le goût de faire de la radio, de partager vos connaissances et découvertes musicales avec nos auditeurs, c'est maintenant le temps de soumettre vos projets pour la saison automne-hiver 2011-2012. La marche à suivre est simple. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca dans la section Proposer une émission et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 7 août. CKRL est aussi à la recherche d'animateurs pour l'émission Nouveau Cru les après-midi de semaine. Pour plus d'informations, écrivez-moi à programmation@commercial.ckrl.qc.ca. Faites partie de l'équipe de CKRL. J'attends vos projets.
Avant, j'étais pas bien. Pas bien avec moi, pas bien avec personne. Avant, je me faisais peur. Mais c'était avant. Avant, quand j'étais toxicomane.
Quand la toxicomanie prend toute la place, il y a portage. Au Québec, des milliers de personnes sont toxicomanes. Aidez-les à s'en sortir. Donnez un portage. Visitez portage.ca.
Maintenant, je suis bien. Vraiment bien. Maintenant, je suis fier de moi. Maintenant, je vis. Donnez un portage. Merci.
C'est KRL 89.1.
Bonjour à tous, c'est Guillaume Lafleur sur les ondes de CKRL. Vous écoutez de midi à 13h l'émission Au 7e ciel, Regard sur le cinéma, une émission entièrement consacrée au cinéma, comme son titre l'indique, bien sûr. Une émission qui se fait le plaisir à chaque fois de remettre un peu sur le tapis la définition du cinéma ou alors la question sempiternelle, qu'est-ce que le cinéma? Et surtout, qu'est-ce que le cinéma aujourd'hui? Il y a plusieurs moyens de répondre à cette question. L'une des plus évidentes est peut-être simplement de rendre compte de la production contemporaine des sorties en salle. Une autre manière de faire est peut-être de rappeler ce qu'a été au fil des décennies, au fil des années, le cinéma dans un sens plus large, au niveau classique, en termes d'innovation, d'expérimentation. Faire des allers-retours entre le passé et le présent en ce qui a trait au cinéma, c'est aussi un des plans de match de cette émission. Et particulièrement pour cet été, où peut-être que ceux qui suivent l'émission l'auront compris, je l'espère, l'une des mots d'ordre consiste à parler à chaque fois d'un cinéaste, d'un créateur qui a marqué d'une certaine manière le médium cinématographique. Dernièrement, j'ai parlé de quelques cinéastes marquants français, entre autres François Truffaut, Claude Chabrol, et puis la semaine dernière, le cinéaste sud-coréen contemporain Aung San Suu. Cette semaine, je vais plutôt me concentrer sur l'œuvre, malheureusement assez confidentielle, mais je l'espère pas tant que ça. C'est une œuvre qui est reconnue par les cinémathèques, par les critiques pointues, mais aussi par les les cinéastes qui s'intéressent au médium cinématographique en ayant en tête qu'il s'agit aussi d'une forme d'art poétique, donc la poésie du cinéma, c'est un peu l'une des manières qu'a pu privilégier le metteur en scène João César Monteiro, cinéaste portugais, tout au long de son parcours. Un cinéaste qui n'a pas une filmographie très très longue, très vaste, mais qui parcourt pourtant, qui traverse pourtant plusieurs décennies. Et comme beaucoup de cinéastes qui ont eu à cœur le renouvellement de la forme cinématographique et son appréhension en des termes poétiques, et quand on parle de poésie, là, on le prend au sens large, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas un fil narratif, mais plutôt une volonté de renouveler le cinéma, de le voir comme une matière d'expression plutôt qu'une matière simplement de représentation et de filtre par lequel il est possible de construire un récit, le filtre de la caméra. Donc la caméra n'est pas simplement le moyen par lequel on construit un récit, on raconte des histoires, on met en scène ou dans le plan des acteurs qui vont dire un certain nombre de choses qui vont surprendre ou créer de l'émoi. Bon, c'est pas simplement ça. C'est parfois une sensibilité à la photogénie, une envie aussi de faire durer des scènes pour des raisons qui correspondent pas à une valeur narrative d'efficacité. Et on peut dire que Monteiro, c'est un cinéaste qui va tout à fait dans ce sens. Donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui, d'autant plus que ces films sont inaccessibles. C'est peut-être une des valeurs qui fait en sorte que j'ai envie de faire cette émission sur une base régulière, c'est rendre compte à l'auditeur de cinématographie, de cinéaste dont on n'entend pas parler, qu'on ne verra pas malheureusement cette émission puisque je parle simplement, mais au moins dont on pourra entendre quelques extraits de films puisque j'ai commencé depuis quelque temps à présenter quelques extraits sonores de films. Donc, une émission entièrement consacrée à Monteiro.
Thank you. Thank you. smell this mess. Estás a ver, Zé Noel? Por que é que a menina você vê este descascar? Não? Descasca aí. Verdadeiras princesas. Um homem para ser homem tem que pelo menos ter uma trombose e fazer uma tromba. Contigo. Elas não matam, mas bem. Esta é a Esperança. É a melhor cominha desta redondeza. Olha, arranja-me uma rapariga com um cozinho bonito. Pode ser aquela que anda ali a dançar com a magrinha. Já agora trazem as duas. Depois logo se vê.
Que o Sr. Eloy é muito popular por estas bandas.
Eu ouvi-te dizer, meu. Eu nunca liguei nenhum ao dinheiro. Era já para ganhar, já para gastar. Pois, é de Omar.
On vient d'entendre un extrait du film Le Dernier Plongeon de Jarl César Montero, cinéaste auquel est consacrée cette émission. Le Dernier Plongeon est un film que Montero a réalisé au début des années 90 et qui est une entreprise qui a mobilisé un travail assez acharné et un investissement de la part des acteurs aussi bien que de la production, aussi bien évidemment que le cinéaste. Montero est quelqu'un qui a porté sur ses épaules des films qui n'étaient pas faciles à produire. La séquence qu'on vient de voir du dernier plongeon, c'est une séquence typique de danse, en fait, la première de danse dans un lieu populaire à Lisbonne. C'est la première séquence de danse du film, il y en a plusieurs. Et cette séquence-là se déroule dans un lieu populaire donc qui est assez louche, disons, à la limite boîte de striptease. Et pour ceux qui comprennent le portugais, vos oreilles se sont peut-être dressées sur vos têtes puisque effectivement le dialogue qu'on entend de manière progressive dans la séquence dont j'ai fait entendre l'extrait est entre un mentor et un jeune homme et son mentor concernant le milieu dans lequel les deux se trouvent. Le jeune homme qui est là vient dans ce lieu pour la première fois, donc cette boîte de danse qui est à la limite boîte de striptease, ou en tout cas qui rappelle un peu une sorte de music hall déjanté comme on le connaissait dans les artères populaires des grandes villes à une autre époque qu'aujourd'hui, sans doute, du moins en Occident. C'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Donc, boîte des feuilleuses, etc. Et donc, dans ce dialogue, Il y a un propos assez vulgaire, assez cru du mentor qui indique comment il aurait pu devenir le propriétaire de ces lieux, qu'il était entouré de belles femmes qu'il définit comme des petites chattes, c'est carrément le terme. On retrouve de manière très fréquente chez Montero cet appel de la vulgarité, cette envie d'irrévérence qui s'exprime souvent de manière moins médiatisée, disons avec moins de distance que dans ce film. Dans le dernier plongeon, Montero avait fait le choix de montrer une série de personnages dans la réalité lisboète contemporaine sans trouver au centre, parce que Montero a longtemps été, en tout cas pas longtemps, mais disons que la reconnaissance de Montero arrive à la fin des années 80, au moment où il se met en scène dans le film Souvenir de la Maison Jaune en 1989. Et à partir de là, il crée un personnage qui s'appelle Jean de Dieu, que l'on va revoir dans plusieurs films, dans quatre films en fait, si on compte simplement les longs-métrages, parce qu'il y a aussi des courts-métrages qui sont parfois réalisés en amont des longs-métrages. Donc, quatre films qui sont, en fait, qui forment un tout. Souvenir de la Maison Jaune, le film La Comédie de Dieu, Les Noces de Dieu, et finalement le dernier film de la filmo de Montero, qui va mourir en 2004 des suites d'un cancer, qui s'appelle Va et Viens. Donc, quatre films, en fait, je crois que le personnage de Jean de Dieu est un peu effacé dans le dernier film Va-et-Vient, c'est-à-dire que c'est davantage, j'ai l'impression, la figure même du réalisateur qui s'impose, dont le caractère particulier, la personnalité si singulière de Montero qui prend le devant de la scène, ou le devant de l'image, devrais-je dire, dans Va-et-Vient. Mais du moins, ça, c'est quatre films qui ont contribué à mettre sur la carte du monde des grands metteurs en scène Montero, de telle sorte qu'à partir de 89 et à la suite, on va voir ces films de manière très régulière programmés dans les grands festivals, en particulier à Venise, où Montero jouissait d'un aura particulier. Donc, il y a à partir de Souvenir de la Maison Jaune, tout à coup, deux vitesses, deux manières de faire dans le cinéma de Montero. L'une est liée à une volonté de s'arrimer un peu plus dans la réalité contemporaine dans la réalité de son temps. C'est le cas du Dernier Plongeon. Et le Dernier Plongeon, moi, c'est un des films que je trouve le plus attachant, peut-être dans la filmographie de Montero, justement, parce qu'il met un peu à l'écart le côté burlesque qui est toujours lié au fait que lui-même se met en scène. Souvent, on a l'impression qu'il n'y a même plus de caméra, qu'il n'y a même plus de cinéma. C'est assez paradoxal lorsque l'on voit le corps de Montero apparaître à l'écran. Il a un corps si étrange et extraordinaire qu'on a l'impression que sa vision, que sa manière de faire du cinéma s'incarne tout à fait en son corps, de telle sorte qu'on oublie un peu que nous, spectateurs, assistons à un spectacle cinématographique ou à une œuvre cinématographique. Et le corps de Montero, son personnage, Jean de Dieu, occupe tout l'écran et à la limite étouffe la présence d'autres figures, d'autres personnages, et même le travail de mise en scène propre à son cinéma s'efface peu à peu, disons, ce qu'on associe souvent au travail de mise en scène, et le jeu sur l'échelle des plans, la construction dramaturgique avec un fil narratif. Bon, je veux pas être conservateur, ça paraît d'autant plus débile peut-être de parler dans ce sens-là lorsqu'on fait face au cinéma de Montero et qu'on veut en parler, parce que justement il se situe toujours un peu en porte-à-faux avec le cinéma narratif qu'il connaît très bien. Montero est un cinéphile aguerri, et une nouvelle manière de faire du cinéma d'un point de vue poétique, avec une sensibilité, un raffinement tout à fait unique, dans lequel se retrouve de manière tout à fait nette son cinéma. Donc, on a l'impression que tout ce qu'on attribue peut-être au cinéma de Montero en dehors des films où il se met en scène, est difficile à saisir ou à retrouver lorsqu'il est au devant de la caméra, parce que tout à coup, il devient un peu le porteur de la mise en scène. On a l'impression que le regard du metteur en scène s'incarne simplement dans son corps, dans les films où il est présent. Et pourtant, on peut dire que ce cinéma du monologue nous donne des clés assez claires pour comprendre son travail et sa vision du cinéma dans un sens plus large, c'est-à-dire toute sa filmographie que j'ai qualifiée de brève, c'est clair, mais qui se promène quand même sur près de 4 décennies, donc des années 60 au début des années 2000, va-et-vient datant de 2002, son dernier film. Donc, Le Dernier Plongeon, c'est quoi? Bah, c'est une autre manière de faire du cinéma qu'initie Montero avec ce film. J'ai pas l'impression qu'il va continuer dans ce sens-là. C'est un film qui est sur la folie, qui commence avec un personnage, le mentor, que j'ai décrit dans la séquence que j'ai présentée tout à l'heure, qui veut, et ça donne son titre au film, se jeter dans la mer en début de film. Et cette volonté de se jeter dans la mer au début, ce suicide en fait qu'il tente, le jeune homme va le retenir pendant qu'il se balade sur le quai. Il voit donc le vieil homme qui est tenté de se jeter à l'eau, et il va le retenir. Et ensuite le reste du film va être une longue balade dans la nuit, une traversée de Lisbonne en compagnie de femmes de passage, de prostituées ou de filles un peu éperdues, rencontrées en fin de soirée au gré des pérégrinations des deux personnages. Et cette espèce de cinéma de balade qu'initie Montero dans une manière de faire du cinéma qui s'apparente à peut-être une des grandes tentations du cinéma moderne, hein, le cinéma de la balade, de l'errance, c'est un peu le road movie, c'est un peu aussi une façon d'exprimer le vague à l'âme et la mélancolie qui va prendre beaucoup de place dans le cinéma qui compte à partir de la fin des années 50 avec des films comme Le Signe du Lion d'Éric Rohmer, mais aussi avec des films comme Les Clisses d'Antonioni. Donc Montero s'inscrit tout à fait là-dedans, mais en étant encore plus irrévérencieux, en jouant davantage la carte de l'expérimentation. Je vais y revenir plus en détail après cet extrait musical. Je dirais aussi que ce qui est fort chez Montero et qui singularise son cinéma par rapport à tous ces films de la balade qui ont été faits depuis la fin des années 50, c'est la tentation de la folie qui est non seulement incarnée par les acteurs jouant des personnages dans ces films, mais aussi dans la forme même de certains de ces films, et en particulier Le Dernier Plongeon. Je reviens plus en détail. Thank you.
Camus, en passant par Anne Hébert et Roger Lemelin, nombreux sont les écrivains qui ont flâné dans Québec. La promenade des écrivains vous propose de suivre leurs traces au gré des textes qu'ils ont laissés. En deux heures de flânerie et à travers des lectures commentées, vous découvrirez une ville réinventée où la fiction se marie au réel. La promenade des écrivains, 8 parcours différents et autant d'expériences fascinantes tout au long de la belle saison. Pour plus de détails, rendez-vous sur promenade-écrivain.qc.ca.
François va s'en tirer. 6 mois de convalescence et ça devrait aller. François aimerait juste comprendre pourquoi. Pourquoi le conducteur qui l'a frappé sur le chantier routier où il travaillait n'a pas respecté les consignes du signaleur? Pourquoi avoir roulé comme si de rien n'était? Cloué à son lit d'hôpital, François voudrait juste savoir pourquoi.
Dans les zones de chantier routier, respectez les consignes du signaleur. Un message du gouvernement du Québec.
À CKRL, l'été, des nouveautés francophones y en pleut. Du lundi au vendredi, de 13h30 à 15h30, votre radio vous propose son hit parade et ses nouveautés francophones à l'émission Nouveau Cru.
Plus de 10 heures de nouveautés chaque semaine.
L'innovation, seulement au 89.1.
Thank you. d'étrange et d'intéressant. Et de... Il m'a envoyé le scénario et m'a fait un petit peu peur aussi. Quoi. Je voyais pas, quoi, je trouvais vraiment que c'était comme quelqu'un qui était comme ça tombé du ciel. Et il m'a envoyé un scénario. Et en fait, j'ai pas voulu le faire. Et... Mais comme c'est quelqu'un qui avec, que je trouvais vraiment bien, puis j'étais flattée qu'il me propose ça, j'ai appelé Paulo Branco, qui le produisait, et je lui ai dit, écoute, mais je veux bien aller le dire à Montero et venir au Portugal. Peut-être c'est Paulo qui m'a proposé, qui m'a dit, mais écoute, viens au Portugal, viens à Lisbonne un week-end, et tu lui diras. Et donc j'ai été là-bas, et en fait, ce qui me gênait beaucoup, c'était d'avoir des dialogues où... qui serait après doublé en portugais. C'est-à-dire parler français, je ne comprenais pas un mot de portugais. Et après d'être doublé et tout ça. Et donc je suis allée là-bas pour lui dire ça. Et il m'a dit, ben écoute, c'est pas grave, elle sera muette. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais et tout. Et donc on a été boire un verre. Et on a bu deux, trois verres. Et puis je ne sais pas, tout d'un coup... J'adore d'ailleurs ce moment-là quand tout d'un coup toutes les idées qu'on a sur les gens, sur les choses et tout, et puis en trinquant, je lui dis, mais tu sais, en fait, je le fais, le film. Et donc je suis rentrée à Paris parce que j'avais pas mes affaires, il voulait pas me laisser partir, il avait peur que je revienne pas, et je suis revenue deux jours après, je suis vraiment remontée à Paris 48 heures prendre mes affaires et je suis redescendue pour faire le film, et je regrette pas du tout.
On vient d'entendre Fabienne Babe, l'actrice principale, en fait l'une des actrices principales du film Le Dernier Plongeon de João César Montero, un film qui est peut-être le centre du propos de cette émission aujourd'hui consacrée à Montero. Une cinématographie tout à fait unique dans l'histoire du cinéma des 30-40 dernières années, vraiment une singularité, un cas à part, qui est difficile à circonscrire d'ailleurs. Vous voyez comment j'essaie de tourner autour de son travail depuis midi. Donc, je pourrais dire que le commentaire de Fabienne Babe, qui est une actrice un peu oubliée maintenant, ou en tout cas qui est moins présente au cinéma, je pense pas qu'elle soit oubliée dans les mémoires pour ceux qui ont vu Le Dernier Plongeon, qui ont été sensibles à l'expression tout à fait singulière du cinéma de Montero. Et aussi, c'est une actrice qui joue dans des films assez étonnants, comme Zanzibar de Christine Pascal, une autre cinéaste qu'il faudrait redécouvrir, et également Hurlevent de Jacques Rivette. Donc, trois films, je dirais, qui voisinent de très près la folie, la duplicité. Dans le cas du Dernier Plongeon, le rôle que joue Fabienne Babe est assez étonnant, comme elle vient tout juste de le raconter dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Elle avait sans doute, aux yeux de Montero, une photogénie, une manière d'être, de bouger dans le plan qui suffisait au cinéaste pour l'engager compte tenu du rôle qu'il voulait lui donner. Et c'est cette présence à l'écran qui avait plus d'importance aux yeux de Montero que le propos même du film. À la limite, le propos narratif, c'est-à-dire le scénario du film, pouvait se subordonner au choix d'une actrice. Et c'est ce qu'explique Fabienne Babe, ce qu'elle raconte assez bien, c'est-à-dire le moment où, tout à coup, dans la discussion avec Montero, elle a envie de faire le film pour la raison simple que Montero lui exprime son désir de travailler avec elle, et ce désir-là serait le moteur du film, un des moteurs du film. C'est quand même une façon d'envisager la mise en scène qui est assez honnête, assez franche, et qui prend acte d'une partie de l'histoire du cinéma qui a souvent consisté, même avec toutes les contraintes possibles qu'impliquait l'industrie cinématographique ou le fait même de porter à terme un projet de fiction de cinéma, malgré tout, ce qui a fait la qualité de beaucoup de films, c'est précisément le désir que pouvait avoir un metteur en scène à filmer un certain nombre d'acteurs qui eux-mêmes étaient motivés à la fois par ce désir et à la fois par le projet du film en tant que tel. En tout cas, quand ces trois ingrédients-là adviennent, ça fait souvent des films remarquables. Et on dirait que Montero, dans sa simplicité et dans sa singularité, s'est dit, si je parviens à avoir simplement un seul de ces ingrédients, je réussirais à faire un film qui sort du lot, qui même souligne un aspect tout à fait élémentaire de la qualité cinématographique du grand cinéma et de la mise en scène, soit celui qui implique la communication de désir entre un cinéaste et une actrice et aussi parfois plusieurs acteurs. Et on peut dire que Le Dernier Plongeon va tout à fait dans ce sens-là, jusqu'à subordonner le film à ce désir. Et Le moment charnière de ce film, c'est justement le moment où ce désir-là est tout à fait légitimé dans la mise en scène. On l'aura compris dans le commentaire que j'ai fait entendre de Fabienne Bable, une partie de ce qui devait être exprimé par le personnage qu'allait incarner Fabienne Bab si elle acceptait, était tombée à l'eau, dans la mesure où elle se voyait mal jouer un film tourné en portugais et devoir être doublée en portugais puisqu'elle ne maîtrisait pas du tout cette langue. Et dès lors, quand Montero fait face à ce commentaire un peu définitif de Fabienne Bab, il lui dit spontanément « C'est pas grave, je réécris le scénario, tu vas être un personnage muet. » Ce qui est quand même une manière radicale d'appréhender les contraintes de la coproduction. Et encore une fois, parce que c'est une coproduction France-Portugal. Et encore une fois, Montero se montre tout à fait génial dans la mesure où, plutôt que d'instrumentaliser ce que sont les contraintes de la mise en scène cinématographique liées à l'industrie, puis au fait d'assembler des capitaux de nationalités diverses pour parvenir à mener à bien un projet, plutôt que d'essayer de faire plier ces contraintes-là et de les mettre au service de la fiction. Au contraire, elles deviennent l'un des éléments par lesquels la mise en scène et la singularité du film va s'exprimer. Donc, non seulement on peut dire que le désir entre le cinéaste et l'actrice trouve à s'exprimer de manière encore plus vive parce que le personnage est muet et parce que l'actrice ne voulait pas être doublée. Ce faisant, Montero montre aussi comment les contraintes de la mise en scène liées à la coproduction et au fait d'engager une actrice française sont indissociables du résultat final d'un film. Et plutôt que de refouler ça, plutôt que de considérer ces contraintes-là comme un élément auquel l'artifice cinématographique va montrer sa puissance, face auquel l'artifice cinématographique va montrer sa puissance, il démontre au contraire à quel point l'artifice cinématographique et les contraintes de production sont intrinsèquement liées. Pourquoi être hypocrite? Pourquoi refouler une dimension de la production du cinéma d'auteur, en particulier dans le monde contemporain? Pourquoi au contraire ne pas les mettre de l'avant? Et c'est d'autant plus fin et intelligent de la part de Montero d'avoir fait ce choix, qu'il y a une partie de ce film qui a une valeur documentaire indéniable. Donc, lorsqu'un film documentaire est fait de façon, disons, assumée, forcément, il n'y a aucun problème à montrer les contraintes de la production, à montrer le matériel cinématographique, ça met d'autant plus le spectateur dans le feu de l'action. Hein. On voit tout l'équipement de tournage qui est lié à la réalité qu'on présente dans un documentaire bien fait et qui s'assume. Alors, pourquoi pas, lorsqu'on fait un film bâtard comme veut le faire Montero, montrer aussi toutes ces contraintes-là, d'une certaine façon. Et c'est ce qu'il fait parce que tout au long de cette balade, donc à travers Lisbonne la nuit, le film Le Dernier Plongeon est aussi un documentaire sur la vie nocturne de Lisbonne absolument assumée, qui est pas loin du cinéma direct finalement, puisqu'il va tourner, je l'ai dit, plusieurs séquences de danse. La première séquence, c'est celle que j'ai fait entendre dans la première partie de cette émission, c'est-à-dire une séquence qui est beaucoup plus mise en scène. La volonté de Montero d'aller vers le documentaire est progressive au long du film. La première partie relève beaucoup plus d'une mise en scène traditionnelle, donc dans une séquence où on voit les deux personnages du mentor et du jeune homme dans une boîte de striptease qui semble plus ou moins construite en fait pour les artisans du film de Montero, par les costumiers, par les décorateurs, etc. Mais ensuite, il y a une séquence de bal, qui est la deuxième séquence de danse, où là, on arrive dans un bal populaire typique, dans lequel on a l'impression qu'il a plongé, qu'il a jeté ses acteurs. Et tout à coup, donc, cette manière de mettre de l'avant les contraintes liées au tournage et à la coproduction du Dernier Plongeon font écho de façon légitime et subtile à la volonté d'aller vers une sorte de document cinématographique presque ethnographique de la vie nocturne lisboate, qui fait toute la qualité, toute la finesse et toute la valeur artistique et ethnographique du Dernier Plongeon. Thank you.
prenant ta main.
On arrive déjà à la fin de cette émission d'Au 7e ciel, regard sur le cinéma, entièrement consacré à Giles César Montero. Je dis entièrement consacré, mais bon, on n'a pas le temps de faire le tour de son cinéma qui est assez varié. C'est un cinéma à plusieurs entrées, comme je le disais, c'est assez difficile d'aller chercher, disons, sans être prétentieux, la substantifique moelle de son travail, mais bon, on peut au moins en dire quelques trucs, on peut au moins dire quelque chose, on peut au moins introduire à son cinéma qui est encore assez méconnu. Je pourrais dire, en ce qui a trait à l'accessibilité de ses films, qu'il y a eu une édition, en fait un coffret DVD, réalisé il y a quand même quelques années, peu après le décès de Montero, peut-être même à peu près, je crois que ça concorde un peu en même temps. Je crois que le producteur Paolo Branco, qui est le principal producteur avec lequel Montero a collaboré, ou en tout cas qui a joué un rôle très important pour sa reconnaissance à partir de la fin des années 80, Branco s'est appliqué à éditer un coffret DVD, donc autour de 2002-2003. Maintenant, on peut trouver certains de ces films, même si le coffret est épuisé, on peut trouver certains de ces films via Amazon. Il y a donc une copie de plusieurs de ses films, dont Le Dernier Plongeon, via Amazon, qu'on peut trouver. Si vous allez sur Amazon.com, il y a des films de Montero. Bon, ils sont tous en portugais, mais vous avez souvent, puisqu'il a travaillé par coproduction très fréquemment avec la France, vous avez souvent des interventions, par exemple, dans les bonus d'acteurs français. C'était le cas de Fabienne Babb, qui jouait dans Le Dernier Plongeon et qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a aussi, dans tous ces DVD, une option sous-titrage français qui permet donc de ne rien manquer du propos qui file tout au long de ces films de Montero. Et pour continuer à parler un petit peu du dernier plongeon, donc, qui est un peu le film principal que j'avais envie d'aborder aujourd'hui dans cette émission, je parlerai de la troisième séquence de danse, puisqu'il y a trois blocs en fait liés à la danse dans le film Le Dernier Plongeon de Montero, qui illustre assez bien presque, je dirais, trois axes de son cinéma et trois manières de faire des films de toute façon. Le premier, une mise en scène plus traditionnelle où on reconstitue une boîte de striptease ou plus ou moins une boîte louche qui est supposément à Lisbonne, mais traditionnellement ça correspond à l'idée qu'on se fait du tournage d'un film de fiction en studio. Le deuxième bloc était davantage documentaire, donc un bal de fin de soirée dans une des rues d'un quartier populaire lisboète qui a une valeur documentaire. Et le troisième volet, mais là c'est le volet qui, je dirais, va plus dans le sens du cinéma expérimental, radical, échevelé, qui fait en sorte que la filmographie de Montero est à mettre tout à fait à part dans l'histoire du cinéma des dernières décennies. Donc c'est la séquence dite de Salomé. Après que les personnages principaux du film, soit le mentor, le jeune homme, Fabienne Bab, qui joue la prostituée muette, et quelques autres des amis de Fabienne Bab qui l'accompagnent, donc quelques femmes et les deux personnages masculins mélancoliques, se retrouvent dans un club, en fait sur une terrasse arrière dans une cour, et assistent à un spectacle où il y a la danse de Salomé. Et la danse de Salomé est interprétée dans un premier temps par une ballerine et dans un deuxième temps de façon tout à fait irrationnelle par l'actrice principale du film, donc Fabienne Bab, qui est muette. Et c'est comme si ce désir que je décrivais tout à l'heure comme étant vraiment un des points forts du film de Montero et un des points forts de son cinéma, donc l'expression du désir entre l'acteur et l'actrice, et entre le cinéaste et l'actrice, le cinéaste et ses acteurs, atteint un point d'apogée qui a rarement été atteint dans le cinéma général, où finalement la séquence est entièrement muette, il n'y a pas de son, et on voit simplement de manière tout à fait irrationnelle, parce qu'on a déjà vu une danse de Salomé faite par une vraie ballerine juste avant, Fabienne Bab va à sa façon, sans être une vraie ballerine, sans l'expérience d'une professionnelle de la danse, exprimer ou essayer de faire la danse de Salomé à sa manière, en se créant une chorégraphie qui ne correspond pas à une chorégraphie traditionnelle, mais qui par ailleurs ressemble un peu à l'idée qu'on peut se faire de la danse contemporaine. Donc tout à coup, on sort du fil narratif traditionnel et même de la valeur documentaire du film qu'on voyait juste avant à travers le portrait d'un bal populaire pour assister à un spectacle purement physique, purement magnétique où le spectateur soit décroche, soit est sous hypnose. Et c'est ce que veut sans doute Montero, exprimer une sorte d'hypnotisme entre la présence pure, la pure et simple présence de l'actrice face à la caméra. Et c'est un moment charnière, je dirais, dans le cinéma contemporain, que ce moment où Montero a su capter sans alibi, sans volonté nécessairement de justifier ça par tout un attirail fictionnel et tout un travail de mise en scène qui mettrait à l'arrière-plan la simple mise en valeur du travail de l'acteur. Donc c'est simplement une actrice au travail qui crée sa propre chorégraphie et qui, en l'occurrence, n'est pas vraiment une chorégraphie de danse, mais plutôt une suite de gestes. C'est par ce travail que peut-être Montero réussit à un point rarement atteint en dehors de son cinéma, réussit à rendre compte de la simple présence d'un acteur avec la valeur poétique que ça sous-tend. Donc je vais terminer là-dessus, en espérant que ça vous ait donné une petite idée de ce qu'est la singularité du cinéma de Montero. Je vous dis à la semaine prochaine, et merci d'avoir été là.